ceste dont Laure va nous parler ce soir, comment elle a passé 4 ans en compagnie d'Emma Goldman et d'une collègue traductrice et d'amis correcteurs pour traduire ces 1000 pages d'une autobiographie d'une grand-mère des anarchistes, notamment. Donc on a quelques bouquins et quelques objets en vente ici, et puis naturellement tous les livres qui sont présentés là et beaucoup d'autres, vous les trouvez au CIRA, vous pouvez les lire sur place ou les emprunter. Vous êtes les bienvenus tous les après-midi de 4 à 7 du mardi au vendredi.
Avenue de Beaumont 24.
Avenue de Beaumont 24, je pense. Oui, il y a des présentations là. Et on fait cette série ici à l'espace autogéré parce qu'on a des liens d'amitié anciens, durables avec ce lieu, et qu'il y a quand même plus de place qu'au CIRA, et qu'on trouve que c'est sympathique d'avoir de la place pour bavarder, boire un verre, manger. Donc il y a quand même un petit bol, si vous voulez absolument soutenir les frais que représente cette série de conférences, présentations, débats. Donc il va y avoir une présentation, et puis ensuite le débat sera ouvert. N'hésitez pas à poser des questions, à dire votre avis, à commenter ce que vous voulez. Donc la présentation est enregistrée par Libradio. Ensuite, le débat, pas forcément. Pas de photographe, pas de prise d'identité, pas de problème. Je laisse la parole à Laure.
Pour actualiser, pour répondre à la question qu'ont-ils ou encore à nous dire aujourd'hui, je voulais vous présenter en fait donc la première version intégrale des mémoires d'Emma Goldman traduite en français, qui a été publiée donc en novembre 2018 par les éditions L'Échappée, qui s'appelle donc Emma Goldman Vivre ma vie, une anarchiste au temps des révolutions, qui est un magnifique ouvrage. Parce qu'il rend vraiment hommage à ce qu'a été Emma Goldman. Et je voulais dire que cet ouvrage a pu voir le jour grâce vraiment au travail collectif qui a été fait, puisque, comme a dit Marianne, on était deux traductrices, mais on a travaillé aussi avec deux autres amis qui ont relu tous les chapitres, qui ont fait des corrections, et aussi on a travaillé de façon très très collective avec l'éditeur. Donc c'est grâce à ce travail collectif qu'on a pu venir à bout de ce travail, de ce travail de traduction. Et il y a aussi un magnifique cahier photo. Il y a un index, donc c'est un très, très 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 bel objet, comme on dit dans le monde de l'édition, c'est un bel ouvrage, voilà. Donc Emma Goldman, elle a donc rédigé ses mémoires. Elle a commencé à les rédiger en 1928. À l'époque, elle était exilée en France. Elle était à Saint-Tropez. C'était pas du tout le Saint-Tropez qu'on imagine aujourd'hui. C'était encore un petit village de pêcheurs. Elle vivait là dans une maison que des amis lui avaient achetée. Elle a commencé donc à rédiger son autobiographie en 1928. Elle l'a finie en 1931. Et elle a été publiée, elle a rédigé en anglais, elle a été publiée aux États-Unis sous le titre de Living My Life. On sait que c'est un livre qui n'a pas été beaucoup vendu, parce que d'abord il était très cher et on était en pleine crise économique. Et Marianne Henkel m'a envoyé récemment, elle a retrouvé dans les archives, parce que je trouve c'est intéressant, parce que une lettre donc de Lily Rupertus, qui est adressé à Netlo, à Franz Netlo, Max Netlo, pardon. Voilà, qui vient de Bourg-la-Reine et qui est daté du 20 décembre 1931. Et la lettre dit ceci, c'est un extrait très court. « Tout à l'heure, Emma Goldman est venue déjeuner ici. Elle est désolée que son livre, Les Mémoires, ne marche pas du tout à cause du prix exagéré, 7 $ 3/4, et elle espère toujours trouver des conférences à faire à l'étranger. » Mais nulle part, il y a assez d'argent pour les lui payer suffisamment. Elle vous enverra son livre, 2 volumes, ces jours. Effectivement, le livre a été 2 fois plus cher que ce qu'elle avait convenu avec l'éditeur. Et en plus, elle voulait le faire en 1 seul volume, et l'éditeur l'avait publié en 2 volumes. Voilà. Donc, on sait par contre que le livre, il a été très bien reçu par la presse, notamment aux États-Unis, mais il a été peu vendu. Mais on sait qu'il a beaucoup circulé de main à main, et surtout dans les bibliothèques. Et puis après, il y a eu 40 ans de silence. Et il a fallu attendre 40 ans pour qu'aux États-Unis, donc il a fallu attendre les mouvements de contestation aux États-Unis dans la fin des années 60, le renouveau du mouvement féministe aux États-Unis, pour qu'on republie Emma Goldman aux États-Unis, pour qu'on la republie, et pour que on publie aussi Emma Goldman en langue française, qu'on ait connaissance d'Emma Goldman en langue française. Donc peut-être ici, beaucoup d'entre vous ont lu l'épopée d'une anarchiste. En tout cas, voilà, on fait partie d'une génération qui avons lu l'épopée d'une anarchiste, qui a été ensuite rééditée. Il est paru en 1979, d'abord aux éditions Hachette, et ensuite il y a eu plusieurs rééditions. La dernière réédition s'est appelée « De l'amour et des bombes ». Et on l'a lu en pensant que c'était la traduction, en fait, des mémoires d'Emma Goldman. Et en fait, c'est seulement une adaptation de ses mémoires, c'est-à-dire c'est une version très très abrégée, très raccourcie de la version intégrale. La majorité des coupures, en fait, elles portent sur les années américaines. Or, les années américaines, c'est vraiment les années où Emma Goldman, elle est devenue ce qu'elle a été, elle s'est formée, et c'est aussi ce qui correspond à la majeure partie des années de sa vie, puisqu'elle a vécu 35 ans de sa vie aux États-Unis. Voilà, donc... et surtout qu'à travers le livre d'Emma Goldman, on ne plonge pas simplement dans sa vie qui est passionnante, mais on plonge aussi dans l'histoire des mouvements d'émancipation qui ont traversé les États-Unis de la fin des années 1880 jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale. On plonge dans l'histoire du mouvement radical, du mouvement anarchiste aux États-Unis. Voilà, donc, et c'est une histoire qui est en fait assez peu connue du public francophone. Avant d'aborder plus spécifiquement la vie d'Emma Goldman, je voulais vous dire quelques mots sur notre travail de traduction, parce que dès qu'on s'est mis à la traduction, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément d'erreurs dans son autobiographie. Il y avait beaucoup d'erreurs d'abord, la première grande erreur qu'elle fait, c'est qu'elle raconte qu'elle arrive aux États-Unis avec ses énormes paquebots dans le port de New York, à la Statue de la Liberté. Et en fait, la Statue de la Liberté, à l'époque, elle n'était pas encore sur son socle. Elle y sera qu'un an après. Donc, c'était une vision de sa mémoire. Et il y a beaucoup d'erreurs dans les noms, dans les dates, dans les lieux, dans les montants des cautions. Elle allait beaucoup en prison. Elle était beaucoup arrêtée. Donc, il fallait payer des cautions pour sortir de prison. Voilà, il y avait toutes ces erreurs-là. Pourquoi toutes ces erreurs? Parce que Emma Goldman, en fait, elle a rédigé ses mémoires. Donc, elle vivait déjà en exil depuis plus de 6 ans. Donc, elle n'avait plus du tout d'archives personnelles. Toutes ces archives américaines, elles avaient été confisquées par la police. Donc, pour essayer de reconstituer un peu l'atmosphère de l'époque et aussi comment elle avait vécu les événements, elle a demandé à ses amis de lui demander de lui renvoyer les lettres qu'elle leur avait écrites. Heureusement, elle écrivait énormément, donc elle a reçu à peu près 3000 lettres, et donc de renvoyer aussi toute la documentation de l'époque. Et donc, grâce à ça, bon, elle a pu reconstituer donc ses mémoires, mais évidemment, elle s'est aussi beaucoup servie de sa mémoire. Et voilà, la mémoire, elle est faillible, donc elle fait des erreurs. Voilà, donc on a décidé de corriger les erreurs mineures. Quand elles étaient mineures, on les a corrigées directement dans le texte sans le signaler au lecteur. Et quand c'était des erreurs plus importantes, on a fait des notes. Et on a vraiment voulu éviter qu'avec 1000 pages, le lecteur ait encore je ne sais pas combien de pages de notes. Donc on a vraiment voulu limiter beaucoup le travail de notes. Donc maintenant, je voulais parler sur la période américaine d'Emma Goldman, parce qu'elle arrive aux États-Unis en 1886, elle a 16 ans. Elle vient de l'Empire russe, elle vient d'une famille juive lituanienne. Elle voulait venir aux États-Unis pour fuir un père qui voulait la marier à l'âge de 15 ans, et aussi comme des millions d'immigrés qui émigraient à l'époque pour effectivement essayer de trouver une vie meilleure. Et depuis l'âge de 13-14 ans, elle travaillait comme ouvrière dans la confection. Donc voilà, c'est dans ces conditions-là qu'elle arrive aux États-Unis. Et peu de temps après son arrivée, en mai 1886, il y a les événements de Haymarket Square à Chicago. Bon, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent, mais je peux les dire rapidement. Donc, Haymarket Square à Chicago, on est en pleine période. Le mouvement ouvrier à l'époque se bat pour la semaine, pour demander la semaine des 8 heures.
La journée.
Oui, pour demander la journée de 8 heures, pardon. Merci, merci.
Non, c'est une très bonne idée.
Pour demander la journée de 8 heures, le mouvement ouvrier est très très puissant à Chicago et le mouvement anarchiste est aussi très puissant à Chicago. Il y avait eu beaucoup de manifestations, mais un jour il y a une manifestation pacifiste qui dégénère, une bombe avait explosé dans la foule, il y a eu des flics qui ont été tués, des grévistes qui ont été tués, et on a immédiatement accusé 8 militants anarchistes d'avoir jeté la bombe. Bon, à l'heure d'aujourd'hui, on n'a toujours pas prouvé que c'était eux qui avaient jeté la bombe, et d'ailleurs il y en avait un certain nombre qui n'étaient pas présents sur les lieux de la manifestation. Donc, l'hystérie anti-anarchiste s'est développée et 4 anarchistes ont été condamnés donc à la prison, à la pendaison, 3 à la prison à vie et 1 s'est suicidé en prison. Et ces événements-là, voilà, ont complètement bouleversé la jeune Emma Goldman qui a 18 ans. C'est vraiment ces événements-là qui vont être fondateurs de son engagement dans le mouvement anarchiste. Et qu'elle va jamais quitter, le mouvement anarchiste jusqu'à la fin de sa vie. Et à elle, comme d'autres figures du mouvement révolutionnaire à l'époque, comme Voltairine de Clare, par exemple, comme Bill Haywood, comme Kate Austin, voilà, comme beaucoup d'autres de l'époque, c'était des événements qui les ont vraiment bouleversés, qui ont décidé de leur engagement militant. Quand elle était arrivée aux États-Unis, elle n'était pas arrivée à New York, elle avait rejoint sa famille qui vivait au nord de l'État de New York. Donc elle vit là 3 ans, je crois, ou 4 ans. Et à l'âge de 20 ans, elle prend sa machine à coudre, puisqu'elle était toujours ouvrière dans la confection, et elle décide de débarquer à New York. Donc elle arrive seule avec sa machine à coudre. Et le jour même de son arrivée, elle avait quand même quelques adresses qu'on lui avait données, que des anarchistes juifs, de langue yiddish, anarchistes juifs lui avaient données. Donc elle arrive à New York et le jour même de son arrivée, elle rencontre Alexandre Berkman, voilà, qui va devenir son premier compagnon de vie et puis ensuite avec qui ils vont rester amis et compagnons de lutte jusqu'à la fin de leur vie. Et elle rencontre aussi Johann Most. Et qui était Johann Most? Johann Most, c'était un social-démocrate allemand qui était devenu anarchiste, qui était donc exilé d'abord en Angleterre et ensuite aux États-Unis, et qui publiait un journal qui s'appelait Die Freiheit, que Emma Goldman lisait de façon assidue depuis les événements de Haymarket Square. Et Johann Most, c'était un très très grand orateur. C'était vraiment un orateur très très redouté et très vite. Il va découvrir que Emma Goldman a des dons d'oratrice et elle va effectivement devenir une oratrice très importante. Alors d'abord dans le mouvement ouvrier de langue allemande et de langue yiddish, puisque le mouvement ouvrier à cette époque-là était très important. Il y avait une classe ouvrière immigrée très importante qui vivait à New York, qui venait d'Europe centrale, qui venait d'Allemagne, qui venait de Russie, qui venait de Scandinavie. Donc on parlait l'allemand, on parlait le yiddish, et le mouvement anarchiste était aussi très puissant dans tout ce milieu-là. Donc elle devient une oratrice très reconnue dans ce milieu-là, mais elle a l'intelligence, et ça c'est extraordinaire avec Emma Goldman, c'est qu'elle a l'intelligence de comprendre que pour étendre la propagande anarchiste, il ne faut pas rester dans le milieu du ghetto, dans le milieu immigré, il faut aussi s'adresser au public américain, aux ouvriers américains. Elle avait appris l'anglais de façon autodidacte en arrivant aux États-Unis. Elle parlait déjà le yiddish, elle parlait déjà l'allemand, le russe, puisque c'était les langues dans lesquelles elle avait été élevée. Et donc, à partir de ce moment-là, où elle décide donc d'étendre la propagande de langue anglaise, de s'adresser au public américain, elle va sillonner les États-Unis d'est en ouest. Elle passe vraiment sa vie dans les trains pour donner des conférences. C'est des conférences. Alors, elle pouvait à des années très, où elle a donné énormément de conférences. En 6 mois, elle pouvait donner 150 conférences qui couvraient 50 villes, qui des villes qui se trouvaient dans 25 États. C'est-à-dire qu'elle passait vraiment sa vie dans les trains. Et ces conférences étaient très suivies, il y avait une affluence très importante. C'était des dizaines de milliers d'ouvrières et d'ouvriers, voilà, qui venaient assister à ces conférences. On ne peut pas comprendre, en fait, le rôle qu'a eu Emma Goldman L'importance qu'elle a eue, sans resituer en fait le contexte de l'époque, de qu'est-ce que c'était la vie de la classe ouvrière à l'époque aux États-Unis. C'est une période d'intense agitation sociale. L'exploitation de la classe ouvrière était absolument effroyable. Il y avait peu d'organes de médiation, c'est-à-dire qu'il n'existait pas aux États-Unis de partis réformistes comme la social-démocratie qui existait en France, qui existait en Allemagne. Il y avait peu de syndicats. Enfin, les syndicats n'avaient pas encore beaucoup de force. Et les grèves étaient absolument... Ben c'est très sympathique. Et les grèves étaient vraiment massives. Quand c'était des dizaines de milliers d'ouvrières et d'ouvriers qui se mettaient en grève dans le secteur des mines, dans le secteur du textile. Et le patronat ne connaissait qu'une réponse... Ben, ils engageaient en fait c'était la répression, c'est-à-dire qu'ils engageaient très souvent des milices privées, comme la fameuse agence des Pinkerton, et ont tiré à balles réelles sur les grévistes. Voilà, c'est ça le contexte dans lequel Emma Goldman va intervenir aux États-Unis. Et elle va intervenir dans les luttes ouvrières, dans les manifestations de chômeurs. Et quand elle intervient, elle défend toujours, et ça reste complètement d'actualité, elle défend toujours la prise en main par les exploités de leur propre lutte, hors des bureaucraties syndicales, hors des partis politiques. Elle défend l'action directe, c'est-à-dire le fait qu'on doit se dégager de l'action de la négociation qui est menée en fait par les bureaucraties syndicales pour essayer de défendre les objectifs de la lutte. Voilà, c'est ça qu'elle met en avant quand elle intervient dans les grèves, dans les manifestations de chômeurs. Et c'est ça qui va lui donner, c'est ces interventions-là qui vont lui donner ce nom pour lequel elle a été très connue aux États-Unis, de Emma la Rouge. Mais Emma Goldman, elle n'est pas qu'une agitatrice qui est reconnue dans le mouvement ouvrier, une oratrice très reconnue dans le mouvement ouvrier, elle est aussi une femme. Très très vite, elle revendique son droit d'aimer qui elle veut, quand elle veut, combien de personnes elle veut. Elle revendique le droit de choisir elle-même sa propre vie. Et je voulais vous lire justement un extrait qui concrétise bien ce qu'était sa vision de qu'est-ce que c'était l'anarchisme et le militantisme pour elle. Voilà, je vous lis. Au bal, elle a 21 ans quand elle dit ça. On est en 1890. Au bal, je me montrais l'une des plus gaies et des plus infatigables. Un soir, un garçon, cousin de Sacha, me prit à part. L'air grave, comme s'il s'apprêtait à annoncer la mort d'un proche camarade, il me chuchota qu'il ne seyait pas à une agitatrice de danser, et certainement pas avec un tel abandon irresponsable. C'était un comportement indigne pour quelqu'un qui devenait une figure du mouvement anarchiste. Ma frivolité ne pouvait que nuire à la cause. L'ingérence infrontée de ce garçon me mit en colère. Je lui conseillais de se mêler de ses affaires. J'en avais assez qu'on m'envoie toujours la cause à la figure. Pour moi, une cause qui représentait un bel idéal, l'anarchisme, la libération et la délivrance de toutes les conventions et de tous les préjugés, ne devait pas revendiquer le rejet de la vie et de la joie. J'affirmais que notre cause ne pouvait prétendre que je prenne le voile et qu'il ne fallait pas convertir le mouvement en cloître. S'il en était ainsi, je n'en voulais pas. Je veux la liberté, le droit pour chacun de s'exprimer, le droit pour tous de jouir des belles choses. Voilà ce qu'était la philosophie et ce qui a poursuivi, enfin ce qui a été toujours un peu le credo de sa vie, qu'il a poursuivi toute sa vie. Et d'ailleurs, ce slogan a été un peu déformé dans les années 70, puisqu'il était écrit sur les t-shirts si ce n'est pas je ne peux pas danser si ce n'est pas ma révolution, voilà, qui était un peu déformé, mais qui en fait renvoyait à cette idée-là. Donc le combat pour l'émancipation des femmes va faire vraiment partie de ces combats les plus très importants. quand elle donne des conférences, voilà, elle donne des conférences sur des thèmes autant aussi divers que la femme nouvelle, les fondements de la morale, la sexualité, l'amour libre, l'homosexualité. Il faut se rendre compte, on est en 1890-1900, c'était un sujet absolument tabou de parler de façon publique de l'homosexualité. Voilà, donc elle donne toujours ses conférences sur ces thèmes-là, qui sont des conférences très suivies. Il y avait des dizaines de milliers de personnes qui venaient assister à ces conférences. Mais Emma Goldman, elle va s'affronter au mouvement féministe de l'époque. C'est-à-dire le mouvement féministe de l'époque qu'on est aux États-Unis, c'était un mouvement féministe qui prônait avant tout, c'était le mouvement des suffragettes, qui prônait avant tout donc le droit de vote et le droit de travailler. Et évidemment, Emma Goldman pensait que la femme devait aller, l'émancipation de la femme devait aller, ça devait être bien autre chose que ça, que la femme devait repenser absolument toute sa place dans la société. C'était ça le rôle de la femme. Elle devait replacer sa place, elle devait s'affranchir du poids du passé, du poids des traditions. Voilà, c'était ça son objectif. Donc c'était bien au-delà du droit de demander du travail ou du droit de vote. Et elle n'hésitait pas devant des parterres de femmes, ce qui lui attirait quand même beaucoup d'agressivité de la part des femmes, de montrer aussi qu'elle était les femmes avaient aussi une responsabilité dans la reproduction de la domination masculine. Voilà, elle n'hésitait pas de dire que les hommes avaient une responsabilité, mais aussi les femmes, puisque c'était elles qui étaient au plus près de l'enfant et qui reproduisaient aussi cette domination. Et Emma Goldman, pour elle, l'émancipation de la femme, ce n'était pas être contre les hommes, mais c'était aussi être avec les hommes. Voilà, pour elle, ce n'était pas deux oppositions, deux antagonismes, mais c'était ensemble qu'on pourrait le faire. Quand elle était... Emma Goldman, elle avait quitté sa vie d'ouvrière pour, suite à un séjour de prison d'un an, elle va pouvoir apprendre le métier d'infirmière. Et donc, elle était devenue infirmière et elle va aussi devenir sage-femme. Et elle avait fait donc ses études de sage-femme à Vienne en 1886. Et elle était devenue donc infirmière et surtout sage-femme. Elle travaillait donc dans les quartiers les plus pauvres de New York et en particulier dans le ghetto juif. Et pour elle, elle était absolument bouleversée. Puisque dans les familles les plus pauvres, on ne pouvait pas aller à l'hôpital, donc les femmes accouchaient à la maison. Et elle était absolument bouleversée par les conditions dans lesquelles les femmes mettaient au monde les enfants et qui souvent la suppliaient de lui donner des moyens de contraception, ce qu'à l'époque elle ne connaissait pas. Et donc le combat pour la contraception, pour le droit à limiter les naissances, va faire partie des combats très importants qu'elle va mener avec d'autres, comme Margaret Sanger, qui a été la fondatrice du planning familial aux États-Unis. Donc voilà, pendant de nombreuses années, elle va lutter donc pour le contrôle des naissances et le droit à limiter les familles. Emma Goldman, elle est profondément antipatriote, antimilitariste. Pour elle, la guerre, ce n'était qu'une affaire de marchand de canons dans lequel les exploités n'avaient aucun camp à choisir. Quand éclate la Première Guerre mondiale, Pierre Kropotkin, pour qui elle avait une très très grande admiration et une très grande estime, va choisir donc le camp d'Union sacrée contre l'Allemagne. Et malgré toute cette admiration et toute cette estime contre Pierre Kropotkin, elle va s'opposer à lui et elle va signer donc avec 34 autres anarchistes le Manifeste international anarchiste contre la guerre en 1915. Elle avait aussi, donc chaque fois qu'il y avait des meetings où il fallait lutter contre les patriotes, elle était toujours de ces combats-là. Et elle avait, moi je trouve absolument extraordinaire, elle avait une capacité de savoir sentir son public et de retourner un public en sa faveur qui était absolument extraordinaire, parce qu'un public où il y a des patriotes, où il y a des soldats véhéments, c'était pas une mince affaire. Et elle avait vraiment cette capacité de retourner le public et en fait de faire passer ses idées. Parler aussi des années américaines d'Emma Goldman, de ces années américaines, c'est aussi parler de ces combats qu'elle a menés avec les EWW. Donc les EWW, c'était le syndicat, syndicaliste révolutionnaire qui s'était constitué en 1905 à Chicago. qui défendait l'organisation à la base et qui en fait regroupait, donc à l'intérieur d'une firme, il regroupait tous les ouvrières, les ouvriers, donc quel que soit leur genre, quel que soit leur pays d'origine et quel que soit leur métier, il les regroupait dans un même syndicat. Et ça, contrairement au syndicat américain de l'époque, qui s'appelait American Federation of Labor, qui lui en fait était organisé par corporation et qui regroupait essentiellement les ouvriers américains. Donc pendant de nombreuses années, Emma Goldman va lutter avec les IWW pour défendre la liberté d'expression. J'ai parlé tout à l'heure donc, des conditions de comment la répression était extrêmement puissante contre les grèves ouvrières, mais c'était aussi la même chose contre les meetings, contre les rassemblements du mouvement qui existait dans le mouvement radical, dans le mouvement anarchiste. Très très souvent, les meetings étaient interdits. Quand ils n'étaient pas interdits, ils étaient interrompus par la police, qui interrompait le meeting et tout le monde, le meeting était dissous. Ou quand ce n'était pas le cas, le meeting se déroulait avec je ne sais pas combien de policiers, en particulier de policiers en civil. Donc pendant de nombreuses années, ils vont défendre le droit à la liberté d'expression. Il faut dire qu'en 1903, le Sénat avait voté une loi qui interdisait à tous les anarchistes d'arriver sur le sol américain. Donc, si on était pris en tant qu'anarchiste sur le sol américain, on était menacé immédiatement d'expulsion. Voilà, donc elle va lutter pour la liberté d'expression et elle va lutter aussi avec les IWW pour défendre, dans de nombreuses luttes ouvrières qui vont secouer les États-Unis à cette époque-là. Donc, évidemment, pour tous ces combats, elle va faire l'expérience de la prison à différentes reprises. Et elle consacre plusieurs chapitres dans son livre à décrire les conditions de vie qui régnaient dans les prisons de femmes, en particulier les conditions de travail. Et je voulais vous lire justement un petit extrait là-dessus, parce qu'elle se sentait toujours extrêmement solidaire de ses co-détenues, qui en général étaient les femmes qui vivaient les conditions de vie les plus effroyables et dont elle se sentait toujours profondément solidaire. Là, je vous lis donc un extrait. « J'avais atteint ce que mes compagnes d'infortune dans la prison ambitionnaient par-dessus tout, la catégorie A. Toutefois, le mérite ne m'en revenait pas entièrement, puisque je n'arrivais toujours pas à réaliser la pleine charge de travail. Je le devais en réalité à la gentillesse de plusieurs jeunes femmes de couleur dans l'atelier. Que ce fût à cause d'une plus grande force physique ou d'une plus longue expérience de la corvée, les détenues noires parvenaient en général à de meilleurs résultats que leurs consœurs blanches. Certaines avaient acquis une telle dextérité qu'elles arrivaient à tout terminer avant 15 heures. Pauvres, isolées et ayant cruellement besoin d'un peu d'argent, elles donnaient un coup de main à celles qui prenaient du retard. En échange de ce service rendu, elles recevaient 5 cents pour une veste. La majorité des blanches étaient malheureusement trop pauvres pour payer. J'étais vue comme la milliardaire et mes ressources financières furent fréquemment sollicitées pour l'accord de « prêt » entre guillemets, demande auquel j'accédais volontiers. Cependant, les filles qui m'aidaient dans mon travail refusaient toute rémunération. Elles se sentaient d'ailleurs blessées à la simple évocation d'une telle perspective. « Je partageais ma nourriture et mes livres », protestait-elle. Comment pouvait-elle accepter mon argent ? La veille du 27 juin, mes amis de couleur me présentèrent l'équivalent d'une pleine corvée de vestes pour le lendemain. Elles s'étaient souvenues de mon anniversaire. Ce serait vraiment bien si pour cette journée, Mlle Emma n'avait pas allé à l'atelier, avait-elle dit. Le lendemain matin, ma table croulait sous les lettres, les télégrammes et les fleurs envoyées par ma famille et mes camarades, sans parler des innombrables colis d'amis de différents coins du pays. J'étais fière d'être l'objet de tant d'amour et d'attention, mais rien ne me toucha autant que ce cadeau offert par mes malheureuses co-détenues. Voilà. Et je voulais dire aussi une autre anecdote qui je trouve est aussi intéressante, qui donne un peu l'ambiance de la prison et de ses co-détenues. Hila, au contraire, toute adolescente qu'elle était, partageait ma conception de la vie et mes valeurs. Enfant prolétaire qui connaissait la misère et les privations, elle possédait une grande force et une conscience sociale. Gentille et bienveillante, elle était comme un rayon de soleil, remontant le moral des autres prisonnières et m'apportant une joie immense. Les femmes se tournaient avidement vers Hila, bien qu'elle restât une énigme pour elle. « Pourquoi as-tu été coffrée ?» lui demanda une des détenues. « Pour vol à la tire ?»« Non. » « Pour racolage ?»« Non. » « Trafic de drogue ?»« Non. » répondit Hila en riant. « Rien de tout ça. » « Alors qu'est-ce que tu as bien pu faire pour écoper de 18 mois ?»« Je suis une anarchiste, » répondit-elle. Les filles trouvaient bizarre d'aller en prison simplement parce qu'on était quelque chose. C'est un très joli morceau. Voilà, donc elle fait l'expérience de la prison à plusieurs reprises. Et au moment donc de l'entrée en guerre des États-Unis en avril 1917, très très vite... donc Emma Goldman, Alexander Berkman et de nombreux camarades, ils vont évidemment se prononcer contre la guerre et contre la conscription des jeunes gens qui devaient donc se déclarer pour partir à la guerre. Et donc ils vont constituer des ligues anti-conscription dans de nombreuses villes des États-Unis. Et la répression du gouvernement américain contre tout le mouvement donc, qui va se développer contre la guerre va être absolument impitoyable. Il va y avoir la loi sur l'espionnage qui va être créée donc, en juin 1917, qui déclarait que toute propagande antimilitariste était illégale. Et ça voulait dire que quand on distribuait un tract contre la guerre, on risquait par exemple 22 années de prison. Il y avait une jeune femme qui avait distribué une circulaire contre la guerre qui a écopé de 40 années de prison. Bon, elle ne va pas tout à fait les faire, mais c'était montré voilà, la répression absolument effroyable qui s'abattait contre le mouvement, contre la guerre. Et en particulier, le mouvement des EWW va être extrêmement décimé pendant toute cette période. Donc, Emma Goldman et Alexander Berkman vont être condamnés à la prison, à 2 ans de prison, à une très très forte amende, je crois que c'est 10 000 dollars, et à être expulsés vers la Russie pour donc propagande contre la guerre et contre la conscription. Donc, ils vont être expulsés et elle va séjourner, donc elle va partir en Russie. Où elle va rester de janvier 1920 jusqu'en décembre 1921. Donc elle va partir pas toute seule, elle va partir donc avec 248 autres expulsés, dont Alexander Berkman et aussi 2 autres femmes. Et les autres expulsés, c'était tous des ouvriers radicaux russes, voilà, que le gouvernement américain avait donc décidé d'expulser puisqu'ils représentaient un danger pour la nation américaine. Moi, c'est un chapitre que j'aime énormément, ce chapitre donc ils vont partir en Russie sur un vieux rafio qui s'appelle le Buford. C'est une épopée, d'ailleurs on l'a appelé l'épopée du Buford, parce que il est vraiment révélateur de l'atmosphère de l'époque, parce que sur ce Buford il va y avoir une mutinerie, il va y avoir voilà une fraternité des soldats qui étaient là pour surveiller les prisonniers, donc ils vont se mutiner contre le commandement du bateau. On va même demander à Alexander Berkman, ils vont faire une délégation, ils vont aller voir Alexander Berkman, ils vont lui dire ben voilà c'est vous qui allez être commandant du bateau, et bon, il va évidemment pas pouvoir répondre à cette demande d'action directe, mais voilà, ça montre vraiment bien l'atmosphère de l'époque. Donc ils arrivent en 1920 en Russie et ils arrivent très enthousiastes de vivre la révolution russe. D'abord, ils retrouvaient le pays où ils étaient nés, puisqu'ils venaient de l'Empire russe, Alexander Berkman et Emma Goldman. Ça faisait déjà depuis la révolution de 1905 qu'ils voulaient retourner en Russie, mais ils avaient décidé de rester aux États-Unis parce que c'était là qu'ils pensaient qu'ils seraient le plus utiles. Donc pour eux, c'était vraiment retrouver voilà, leur rêve, et c'était la révolution. Donc pour eux, voilà, rien de plus idéal que ce moment-là. Ils étaient des fervents défenseurs des bolcheviks. Ils avaient identifié vraiment le parti bolchevique avec octobre 1917, et ça contrairement à de nombreux camarades anarchistes voilà, qui s'étaient opposés au parti bolchevique. Mais eux, ils avaient vraiment défendu le parti bolchevique, la révolution d'octobre. Et quand ils avaient été condamnés à la prison, ils avaient eu quelques mois où ils étaient on avait fait appel, donc ils étaient en liberté. Et ils avaient, à ce moment-là avait eu lieu la révolution d'octobre 1917, et ils avaient sillonné là encore les États-Unis pour faire de nombreux meetings et pour défendre donc la révolution russe et le parti bolchevique. Donc ils arrivent fervents défenseurs du parti bolchevique, mais évidemment la réalité ne va pas être du tout celle qu'ils avaient rêvée. Ce chapitre, il fait 202 pages, c'est le chapitre 52. C'est un document historique extrêmement important parce que d'abord, Emma Goldman parle le russe, c'était sa société, donc elle connaissait bien la société. Ils vont rester 2 ans en Russie, donc ils ont vraiment le temps de s'imprégner de l'atmosphère qui régnait en Russie. Elle et Alexandre Bergman, ils vont beaucoup circuler dans les marchés, dans les gares. Et contrairement aux délégués étrangers qui venaient en fait en Russie à cette époque-là et qui étaient chaperonnés par le parti bolchevique et qui restaient juste que quelques semaines, eux, ils vont rester 2 ans. Donc vraiment, ils ont le temps de s'imprégner de la situation. Mais ce qu'elle découvre, c'est la misère absolument terrible, la faim pour la grande majorité, la famine pour la grande majorité de la population. Il n'y a pas de bois pour se chauffer, il fait très froid en Russie. Les marchés sont vides, le parti bolchevique n'a pas mis encore en place de forme de réquisition nouvelle, donc les marchés sont vides, et on réquisitionne les paysans de leur récolte. Elle découvre que les dirigeants bolcheviques, ils ont des privilèges, ils voyagent pas dans les mêmes conditions que la majorité de la population, les rations de nourriture ne sont pas les mêmes, les conditions de logement ne sont pas les mêmes, donc elle découvre les privilèges, elle découvre l'existence d'une bureaucratie, c'est-à-dire que de plus en plus dans les usines, arrive une couche de parasites qui est là pour contrôler le travail, pour aussi contrôler la vie administrative, mais qui en fait contribue à ce que tout sentiment d'initiative disparaisse. C'est-à-dire que toutes les initiatives sont absolument ne sont pas à l'ordre du jour. Donc ce qui contribue à aggraver effectivement la misère. Elle découvre la corruption et elle découvre la répression. Et en particulier, elle découvre la répression contre les militants anarchistes, c'est-à-dire les premiers qui, avec les bolcheviques, ont fait la révolution d'octobre. Ça va être les premiers donc qui vont aller en prison et elle découvre que la répression se fait de plus en plus importante. Mais Emma Goldman, qu'elle est très intéressante, qu'elle est très intéressante à l'heure d'aujourd'hui, c'est qu'elle n'est absolument pas dogmatique. C'est-à-dire qu'elle a des convictions, elle a vraiment des convictions profondes, mais elle ne regarde pas la réalité avec les lunettes idéologiques. C'est-à-dire que face à la réalité, elle la regarde et elle confronte avec ses idées, et elle essaye de voir qu'est-ce qui ne va pas. Et donc, elle doute beaucoup, elle questionne beaucoup, et elle cherche des explications à ce qui est en train de se passer. Quand ils étaient arrivés en Russie, donc elle et Alexandre Bergman étaient déjà donc des révolutionnaires très connus aux États-Unis, et ils étaient aussi connus donc par les grands leaders bolcheviques en Russie. Donc ils étaient arrivés en fait de façon plus ou moins officielle. Ils avaient été accueillis de façon officielle par le parti bolchevique. Donc elle va pouvoir avoir accès, elle et Alexandre Bergman, aux grands leaders, on va dire, bolcheviques. Donc ils vont rencontrer par exemple Alexandra Kollontai, qui était une grande figure du mouvement féministe en Russie, qui a fait paraître un livre en 1973 qui s'appelait « Le marxisme et la révolution sexuelle », qui s'est beaucoup intéressée à la question des femmes. Donc elle va pouvoir aller rencontrer Alexandre Kollontai, qui va lui dire « Oh mais tous vos doutes, tout ça, c'est juste des petites taches sur la révolution ». Ils vont rencontrer Lénine, à qui ils vont faire part de leurs doutes, de leurs questionnements, et aussi de la répression. Et Lénine va leur dire « Mais non, mais ce sont des bandits qui sont en prison, c'est des Makhnovis, c'est des voyous, ce ne sont pas des anarchistes idéologiquement fiables ». Voilà. Et la seule chose que va leur proposer Lénine, c'est de participer à la Troisième Internationale, de contribuer à la Troisième Internationale, ce qu'ils vont refuser parce qu'ils voulaient absolument rester indépendants. Donc ils essayent désespérément de se rendre utiles à la Révolution, ils n'y arrivent pas. La seule chose qu'ils vont accepter, c'est finalement de contribuer au musée de la Révolution. C'est quand même incroyable, c'est une révolution et on fait déjà un musée. Donc c'est vraiment déjà la mort de la Révolution. Mais ils vont l'accepter parce que ça va leur permettre de voyager et ils vont pouvoir aller jusqu'en Ukraine et aussi dans le nord de la Russie, à Arkhangelsk. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'ils vont constater ? Ben, la même misère, la même corruption, la même répression qu'ils ont constatée donc, à Petrograd et à Moscou. En février 1921, il y a un grand événement. Voilà, ce sont les funérailles de Pierre Kropotkine. Voilà, Pierre Kropotkine était revenu vivre en Russie après la révolution de février 1917 et il meurt en février 21. Et on peut dire que ça va être la dernière grande manifestation. Ces funérailles vont être l'occasion de faire. Ça va être la dernière grande manifestation anarchiste qui va avoir lieu en Russie, puisque les anarchistes russes, donc qui sont en Russie, Alexandre Berman et d'autres, vont organiser ces funérailles. Il va y avoir énormément de monde qui vont participer à ces funérailles de Kropotkine. Et il y a un petit film. Si vous pouvez le voir, on peut taper funérailles de Kropotkine qui est disponible sur YouTube, qui dure à peu près 11 minutes. C'est très, très émouvant. C'est un film qui est très bien fait parce qu'il a répertorié tous les noms des militants, voilà, qui ont contribué à organiser les funérailles. Et c'est très émouvant parce qu'évidemment, une grande majorité de ces militants sont disparus en prison par la Tchéka, voilà, ou emprisonnés, ou sont morts par la Tchéka. Voilà, mais malgré... Voilà, tous les doutes, les questionnements qu'Emma Goldman a sur ce qui se passe en Russie, elle pense qu'il y a des priorités, que ce n'est pas le moment de critiquer publiquement le parti bolchevique, que la priorité, c'est de défendre la révolution contre les puissances internationales, contre les puissances à l'étranger, et aussi contre les puissances de l'intérieur, contre les armées blanches. Donc elle décide voilà, de taire ses critiques en public. Et d'ailleurs, c'est un de ces arguments qui vont lui faire refuser, elle et Alexandre Berman. Quand ils étaient en Ukraine, les anarchistes ukrainiens les avaient contactés, en particulier parce qu'ils voulaient étendre la propagande anarchiste avec l'aide de Makhno. D'ailleurs, la femme de Makhno était venue contacter directement Emma Goldman. Et Emma Goldman avait refusé donc de contribuer à ce travail avec les anarchistes ukrainiens pour les mêmes raisons, parce qu'elle ne voulait qu'elle faisait pour ne pas travailler avec le parti bolchevique, parce qu'elle pensait qu'il y avait des priorités, voilà, que la priorité c'était il fallait défendre la révolution contre les puissances extérieures et aussi contre les armées blanches. Mais c'est mars 1921 qui va être vraiment voilà, le moment de rupture pour elle comme pour Alexandre Berkman. Mars 1921, donc c'est l'écrasement de Kronstadt et des grèves ouvrières et de Petrograd. C'est un moment très très important parce qu'ils sont présents physiquement quand éclatent les grèves. Elle et Alexandre Berkman, ils sont à Petrograd quand éclatent les grèves ouvrières à Petrograd et quand les marins de Kronstadt donc se solidarisent avec les marins, avec les grévistes de Petrograd, ils sont présents quand il y a le meeting qui est le pétro-soviet qui est organisé donc qui est présidé par Zinoviev et quand Zinoviev le 4 mars 1921 je crois que c'est la date va déclarer dans ce meeting que si les grévistes de Petrograd et les marins de Kronstadt ne cessent pas leur grève, ils vont être déclarés contre-révolutionnaires et ils vont être massacrés. Ils sont présents physiquement dans ce meeting et la grande Emma Goldman, qui était une oratrice absolument incroyable aux États-Unis, elle est incapable de parler parce que c'est trop fort, quoi. Elle pressent ce qui va se passer. Et effectivement, il va y avoir l'écrasement donc, de Kronstadt. Et ils vont rester pendant 10 jours à Petrograd. Et ils vont entendre la mitraille qui va tomber sur Kronstadt. Donc c'est à partir de ce moment-là que ça va être vraiment le point de rupture avec le parti bolchevique. Et qu'ils vont décider donc, de quitter la Russie donc, en décembre 1921. Mais ils décident de quitter la Russie non pas parce qu'ils avaient peur pour leur vie, Ils étaient des révolutionnaires très connus à l'étranger, donc ils pensaient que la Tchéka, qui était donc la police du parti bolchevique, on n'allait pas les mettre en prison, on n'allait rien leur faire physiquement en tout cas, mais ils pensaient qu'à l'étranger, ce serait plus facile pour eux de dire ce qui était en train de se passer en Russie, de dire que c'était le parti bolchevique qui avait étouffé la révolution russe, et aussi pour continuer à défendre les prisonniers anarchistes qui étaient en Russie. Voilà, donc ils pensent que leur rôle sera plus, ils seront plus utiles de quitter la Russie. Donc ils partent en décembre 1921 avec des passeports russes. Et là, depuis ce moment-là, voilà, ça va être les années d'exil qui vont durer pour Emma Goldman jusqu'en 1940 et pour Alexandre Berkman jusqu'en 1936. En 1923. On peut dire que Emma Goldman, ce sera une des premières voix, c'est pas la seule, mais une des premières voix qui va dénoncer à l'étranger ce qui se passe en Russie, qui va dénoncer donc la dictature du parti bolchevique. Elle va écrire pas mal d'articles pour les journaux américains. Elle va publier un livre que l'éditeur va complètement saboter, puisqu'il va saboter son titre et il va couper les douze derniers chapitres de son livre. Donc il va être republié en 1925 dans sa globalité. Et j'en parle parce que ce livre a été traduit en 2017 sous le titre « L'agonie de la Révolution » par les Nuits Rouges, donc en 2017. Et donc c'est une traduction, une publication voilà, qui a mis beaucoup de temps pour arriver, mais il est paru. Par les Nuits Rouges, je l'ai dit. Et Alexandre Berkman lui va publier en 1925 donc le mythe bolchevique qui a aussi été retraduit et publié par les éditions Klingsink aussi en 2017. Donc évidemment leur position contre le parti bolchevique vont être très très mal reçues. Parce qu'ils sont accusés par les communistes de faire le jeu des contre-révolutionnaires, et donc ils sont mis au banc politique, ceci dans des conditions donc extrêmement précaires, extrêmement difficiles. D'abord parce qu'ils ont des visas qui sont renouvelés que pour des très courtes périodes. Alors Emma Goldman, elle va vivre donc en Suède, elle va vivre en Allemagne, elle va vivre en France, elle va vivre en Angleterre, elle va vivre au Canada. Alexandre Berkman, lui, va vivre en Allemagne et en France. Il va mourir en France en 1936. Mais les visas qu'ils ont, c'est pour des très courtes périodes, parce qu'en général, le FBI et la Tchéka fait pression sur les gouvernements qui les accueillent pour leur renouveler. Voilà, quand on leur renouvelle, on leur donne le visa le plus court possible ou on ne leur donne pas. Alors, pour essayer de contourner cette situation, en 1925, Emma Goldman va se marier, fait un mariage blanc avec James Colton, qui était un mineur gallois, qui était anarchiste. Donc, ça va lui permettre d'avoir la nationalité britannique. Et avec ça, elle va pouvoir voyager un peu partout, sauf aux États-Unis où elle n'avait pas le droit d'aller. Donc leurs conditions de vie matérielles sont extrêmement précaires. Emma Goldman survit beaucoup en donnant des conférences. Elle donne des conférences sur le théâtre, elle donne des conférences sur la situation sociale. Ils vivent plus, ils sont plus amants avec Alexandre Berkman, mais ils restent très très liés jusqu'à la fin de leur jour. Donc Emma Goldman contribue beaucoup à la vie matérielle d'Alexandre Berkman. Ils ont des conditions de logement aussi très précaires. Emma Goldman n'a pas de logement fixe. Elle va avoir juste pendant quelques années cette petite maison donc, où elle écrit son autobiographie à Saint-Tropez. Les conditions de vie sont aussi aggravées par le fait qu'ils n'avaient pas le droit, dans les pays où ils étaient, de pouvoir intervenir dans la vie politique. Ce qui pour Emma Goldman était très difficile, n'avaient pas le droit voilà, d'intervenir dans la vie, dans les meetings. Et elle, qui était une très grande oratrice et qui était profondément une combattante, pour elle, c'était extrêmement, extrêmement difficile. Donc le livre, ses mémoires donc s'achèvent en 1928, et après 1928, en fait, ça va être les mêmes conditions de vie qu'elle va vivre. Elle va continuer toujours à donner des conférences, elle va intervenir sur la montée des dictatures en Europe, sur le régime nazi, la montée du régime nazi en Allemagne. En 1934, elle va réussir à à avoir un visa de 3 mois pour les États-Unis. Les États-Unis, c'était vraiment le pays où elle souhaitait revenir vivre, parce que c'était là où elle s'était formée. Mais voilà, on va lui donner seulement 3 mois pour visiter le pays. Elle n'avait pas le droit d'intervenir sur la situation sociale là-bas. Elle va essayer de détourner quand même les titres de ses conférences pour pouvoir dire quand même ce qu'elle avait à dire. Elle va aussi défendre voilà, la publication de son livre. Ensuite, elle va vivre au Canada et elle va revenir en Angleterre. Et en 1936, voilà, il y a le décès d'Alexandre Berkman. Il décède à Nice. C'est un moment extrêmement, extrêmement difficile puisqu'ils étaient très, très, très liés. C'était vraiment c'était extrêmement, leur lien était extrêmement fort. Donc pour elle, c'est un moment très, très dur. Mais un mois après, éclate la Révolution espagnole en 1936. Donc elle va être invitée par la CNT-FAI à aller en Espagne, où elle va aller donc à 3 reprises. Elle va y aller en 36, en 37, en 38. Elle va y rester à chaque fois 2-3 mois. Elle va évidemment être très très près de la Révolution espagnole. Elle va être en désaccord avec la direction de la CNT-FAI quand ils font voilà la coalition avec le gouvernement Caballero. Elle va être en désaccord aussi avec leur attitude de conciliation envers le Parti communiste espagnol et évidemment avec les communistes russes. Mais elle adopte en fait la même politique qu'elle avait adoptée quand elle était en Russie, c'est-à-dire qu'il y a des priorités. En public, elle ne disait pas ses désaccords, mais elle le faisait dans de nombreuses lettres en fait qu'elle écrivait à ses amis. Mais comme elle parlait pas la langue espagnole, elle pensait qu'elle était plus utile en Angleterre pour défendre donc la cause de la Révolution espagnole et ensuite la cause des réfugiés espagnols et aussi pour continuer à lever des fonds pour les anarchistes russes. Qui avait pu sortir de prison de Russie, mais qui était arrivé en Europe, qui n'avait absolument aucun moyen de survivre. Donc voilà, pendant des années, elle va lever des fonds, et Alexandre Berkman aussi, pour leur permettre de subvenir à leurs besoins. Donc en une année avant sa mort, elle va vivre au Canada, à Toronto, et elle meurt en mai 1940. Et ce qui était vraiment, c'est vraiment l'ironie de l'histoire, c'est-à-dire que le gouvernement américain n'avait pas voulu qu'elle revienne vivre sur le sol américain, mais on va lui accorder pour sa dépouille mortelle, puisqu'elle voulait être absolument enterrée dans le cimetière de Waldheim à Chicago, là où avaient été enterrés les pendus de Haymarket Square, là où avait été enterrée aussi Voltairine de Clare, qui était donc une autre grande figure du mouvement anarchiste, pour lequel Emma Goldman avait beaucoup d'admiration, qui était morte très jeune, elle était morte quand elle avait 45 ans. Donc voilà, elle voulait être enterrée au cimetière Waldheim de Chicago, et le gouvernement américain va permettre donc que sa dépouille mortelle revienne aux États-Unis. Voilà, parler d'Emma Goldman, c'est aussi parler de toutes les facettes qui forgeaient sa personnalité, et en particulier elle était extrêmement passionnée par l'art, c'est-à-dire par toutes les formes au niveau artistique qui remettaient en question l'ordre établi, et qui essayaient de penser comment on pourrait être une nouvelle société, comment pourrait être l'homme nouveau, la femme nouvelle. Et à l'époque, il y avait le théâtre moderne, c'était le théâtre de Strindberg, le théâtre de d'Ibsen, le théâtre de Tchekhov. Elle était absolument passionnée donc de ce théâtre moderne, et pendant des années d'ailleurs elle va donner donc des conférences de théâtre sur ces différents dramaturges. En 1914, elle va publier donc un livre qui n'est pas traduit en français. Donc je peux vous donner le titre qu'on peut trouver, c'est ce qui s'appelle « La signification sociale du théâtre moderne », qui est en fait une compilation des conférences qu'elle donnait à l'époque sur le théâtre. Donc elle est une grande passionnée de théâtre. Elle est aussi une grande passionnée de la littérature, évidemment, comme toute cette génération à l'époque, qui lisait absolument énormément. D'ailleurs, il y a une photo qui la représente avec le coude, là, sur des bouquins, enfin, une pile de bouquins comme ça. Elle partait jamais à un meeting ou à une manifestation sans un livre, sans ses affaires de toilette et sans un livre, parce qu'elle disait, au moins, là, si je suis arrêtée, j'aurai le temps de lire. Voilà, donc elle était passionnée par la littérature, et en particulier par la nouvelle littérature. Elle était absolument fanatique de Nietzsche. Elle était donc, et elle essayait de lier donc son engagement dans la vie militante avec son amour de l'art. Et pendant 11 ans, elle fait une revue qui s'appelle Mother Earth. Et son idée de cette revue, c'était d'associer les idées sociales, enfin, de mettre en lien les idées sociales avec toutes les jeunes expérimentations artistiques qui existaient à l'époque. Et un grand nom, des artistes très connus de l'époque, comme Man Ray, comme Félix Grandjean, comme Robert Minor. Robert Minor, c'était un grand dessinateur humoriste américain. Félix Grandjean, c'était aussi un dessinateur français, un anarcho-syndicaliste. Donc, ils vont faire plusieurs couvertures donc de sa revue de Mauverhoff. Elle était aussi passionnée pour tout ce qui était, pour toutes les nouvelles formes de pédagogie nouvelle. Et en 1911, elle va constituer avec d'autres, avec Alexandre Berkman et d'autres, ils vont donc mettre en place le centre Francisco Ferrer, qui était donc un centre qui était dédié donc voilà, à une nouvelle forme de pédagogie moderne et dans lequel Man Ray va être élève. Voilà, c'est comme ça qu'elle va tisser ses liens avec Man Ray. Mais voilà, ce livre, donc « Vivre ma vie », c'est tout sauf un ouvrage froid et factuel. Et c'est pour ça que personnellement, j'ai pris énormément, énormément de plaisir et de passion à le traduire, parce qu'Emma Goldman donne une place extrêmement importante à ses doutes, à ses émotions, à ses questionnements. Elle passe sa vie, en fait, voilà, à douter, à se questionner. Elle nous livre, en fait, ses doutes, elle nous livre ses émotions. Elle accordait une place très importante au ressort psychologique des êtres qu'elle rencontrait. Et dans son livre, chaque fois qu'elle rencontre quelqu'un, elle fait des portraits absolument extraordinaires, extrêmement incisifs, des personnalités, des personnes qu'elle rencontre, comme Kropotkin, comme Louise Michel, comme Jack London, comme John Reed, enfin, et d'autres, comme Lénine. Elle fait vraiment des portraits extrêmement humains, extrêmement sensibles. Elle avait une très grande finesse psychologique. Et elle disait qu'elle avait eu la chance d'assister, quand elle avait fait ses études de sage-femme en 1896 à Vienne, elle avait eu la chance d'assister à des conférences de Freud. Et pour elle, Freud, elle avait eu la chance de l'écouter. Et elle disait que ça lui avait permis de comprendre voilà, ce que ça représentait la sexualité. Ça lui avait permis de comprendre ses propres besoins sexuels. Et elle disait, écoutez, Freud, c'était passé de la cave à la pleine lumière. Voilà. Et donc, elle se servit énormément de cet apport pour dresser ses portraits extrêmement humains. Et Emma Goldman, elle s'appliquait à elle-même. Voilà ce qu'on doit s'appliquer à nous aujourd'hui quand on défend des idées. Elle s'appliquait à elle-même ce qu'elle défendait, c'est-à-dire qu'elle défendait la libre disposition de son corps, le droit d'aimer qui elle voulait. Donc, son livre et ses mémoires sont traversés par les passions amoureuses. Elles sont traversées par les joies que ça procurait, par les extases que ça lui procurait, les extases même sexuelles, elle nous en fait part, mais aussi par les doutes et par les questionnements que ces passions amoureuses ont fait surgir en elle. Elle nous fait partager ses passions pour Alexandre Berkman, pour Edouard Brady. Edouard Brady, c'était un anarchiste autrichien avec qui elle a vécu pendant 6 ans, une passion, voilà, une liaison très, très tumultueuse. Elle nous fait partager sa passion pour Ben Reitman, passion très, très tumultueuse. Et donc, elle nous les fait partager en nous montrant, en fait, les contradictions que ça fait naître en elle-même. Et quand on travaillait avec Jacqueline Royce donc à faire cette traduction, on peut dire que ces mots, vraiment les mots qu'elle utilisait, ils restent toujours extrêmement modernes parce que c'était des mots... comme ceux d'une amie proche qui nous parlait et qui nous disait ben, comment essayer de trouver le chemin vers la liberté. Voilà, c'est pour ça qu'on a pris, que j'ai pris en tout cas tant de passion pour traduire ce livre et que j'espère voilà, que celles et tous ceux qui vont lire ces mémoires, ben, vous allez y trouver vous-même ce qu'Emma Goldman elle a encore à nous dire à l'heure d'aujourd'hui. Voilà. Donc c'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui.